je me pose toujours la question de comment on peut construire son univers gustatif et son univers affectif en général en poussant un chariot et en ayant des produits qui mentent.
CO2, mon amour.
C'est-à-dire que quelque part, quand t'achètes un produit transformé, un emballage, c'est beau, ça te fait saliver. Et quand tu l'ouvres, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que t'as pas ce même plaisir que ça te procure intellectuellement.
Denis Chessou.
Les gamins, ils construisent tout leur univers sur du mensonge.
Ah ben vous voyez, elle a pas justement sa langue dans sa poche. C'est donc Marie Morage que l'on va retrouver dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec aujourd'hui Lucas Vaillant et Sacha Trop à la technique. Je n'oublierai pas Albert Houck et assisté de Camille Blanès et Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Ah, une petite humeur en forme d'actualité. Je peux vous dire que moi, le soldat glyphosate est mon inséparable adjuvant-chef. On n'a pas du tout apprécié jeudi dernier cette remise des trophées zéro phyto aux communes, collectivités et autres lycées de Bretagne. Oh que non, on nous déclare la guerre. Ah bah oui, cette manie qu'a depuis 2009 la région Bretagne, avec le soutien de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, de récompenser les communes qui cherchent à nous bannir, nous, les pesticides. Ah bah ça nous donne des boutons. Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, on va pas féliciter ceux qui trouvent des solutions alternatives à l'usage des pesticides. On croit rêver. Aujourd'hui, plus de 220 communes sont lauréates, soit 750 000 habitants, 21% de la population bretonne. Il y a même des communes qui ont inventé des machines à désherber, à sarcler, qui ont déposé un brevet, comme la Plourazette à Plouer-sur-Rance, 3500 habitants, la Lanisquette à Lanisca, 800 habitants, j'en passe et des pires. Ah bah oui, quand on voit ces mauvaises habitudes qui s'étendent chaque année davantage, on se dit qu'on a du mouron à se faire, nous, hein, le glyphosate, oui, à vous dégoûter de reprendre du quinium. Oui, je prononçais correctement une autre fois. Comme si l'on pouvait se passer de nous et de nos copains, les engrais azotés et phosphorés. Enfin, mais dans quel monde vivez-vous? Vous ne lisez pas FNSEA Magazine ou quoi? Hein? Vous n'êtes pas entre les mains des coopératives qui n'en ont plus que le nom et qui sont devenus des groupes financiers maintenant? Et voilà, donc cette hérésie du zéro phyto pour les collectivités, maintenant, on ne pense plus développement d'abord, mais qualité de l'eau d'abord, puis développement du territoire. L'eau est donc la condition du développement et non l'inverse. Ça, c'est la politique, c'est vrai, de la région Bretagne. Comme si l'eau pouvait incarner la clé d'un développement futur. Et allez donc, on met maintenant la rivière avant les bœufs, les volailles et les cochons. Franchement, où va-t-on? Bon, alors tout espoir n'est quand même pas perdu, car heureusement, ça bloque encore un peu par endroits. Vous savez, alors, il faut beaucoup de pédagogie, hein. Beaucoup de pédagogie auprès des habitants, évidemment. Auprès des services techniques, mais au niveau des cimetières, ça bloque encore un peu en France. Ah ben c'est comme ça. On peut pas accepter un peu d'herbe folle, un peu par-ci par-là sur les trottoirs, oui, mais pas dans les cimetières. Les morts, paraît-il, n'aiment pas avoir du végétal à hauteur du plafond. Comme quoi l'expression « manger les pissenlits par la racine », ça quand même mérite d'être revu et corrigé. Mais alors ce que j'ai trouvé assez génial, c'est qu'il y a une lauréate qui était très heureuse, qui vraiment fait ce travail de zéro phyto dans sa commune depuis plus de 10 ans, et qui a dit très joliment « le zéro phyto, c'est une non-maladie contagieuse. » Et alors, si vous en avez aussi assez de subir l'actualité, les bras ballants sans trop savoir quoi faire, si vous êtes coincé à l'intérieur par des pollutions diverses et variées, trop froid pour sortir courir, etc., et vous ne supportez plus cette impuissance à faire bouger les choses face à la situation, eh ben, le nez collé au carreau givré de votre fenêtre, vous allez pouvoir vous rendre utile. Oui, la Ligue pour la protection des oiseaux et le Muséum d'histoire naturelle ont besoin de vous, les enfants et de tout à chacun, et ce week-end, eh bien, vous pouvez les aider en comptant pendant une heure les quelques piafs qui consentent encore à fréquenter votre mangeoire en hiver sur le balcon, dans le parc ou dans le jardin. Oui, donc il suffit pas de déplorer les pertes vertigineuses constatées en nombre et en espèces des effectifs de nos petits copains ailés, hein, parmi les plus communs. Encore faut-il avoir des éléments chiffrés à présenter. Donc c'est un travail sympathique, hein, qui est renouvelé chaque année, c'est la 5e édition, et j'espère que vous en serez. Et un homme qui ne va pas du tout me dire le contraire, eh ben c'est Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour cher Alain.
Salut Denis.
Ça va bien?
Non.
Non, ben je sais bien.
Je suis désolé.
Ben je sais, parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale?
Il s'est passé une chose, mais incroyable, ouais, qui a peut-être été effacée par l'affaire Fillon, mais quand même. Ségolène Royal a une question posée par un député qui lui demandait si on pouvait prolonger la chasse aux aux oiseaux, aux oies singulièrement, qui ferment en principe le 31 janvier, a tout simplement répondu, on est en plein cœur de l'hémicycle de la République, hein, et bien que elle ne prendrait pas d'arrêté pour prolonger cette chasse, parce que ça serait cassé par le Conseil d'État. En revanche, il pourrait chasser pendant 12 jours de plus, et elle fermerait les yeux. Ça s'appelle de l'incitation au braconnage. Ouais. On est dans un état de non-droit, et je trouve ça mais scandaleux. C'est un mépris à l'égard des scientifiques qui jugent indispensable l'arrêt de cette chasse, puisqu'on engage la période de reproduction, à l'égard de l'Agence de la biodiversité, au passage, qui vient d'être créée, bon, à l'égard de la plus haute magistrature, le Conseil d'État, voilà 20 ans qu'on casse toutes les tentatives de prolongation de chasse. À l'égard des associations comme la LPO et d'autres qui se battent pour faire respecter le droit.
Et alors, juste, pardonnez-moi Alain, c'est vrai que là on parle entre autres des oies cendrées, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des appelants. Alors les appelants, ce sont des canards qui sont avec reliés avec un fil, enfin bon, pour appeler donc leur congénère, si j'ose dire.
Ouais.
Et en même temps, alors là c'est autre chose, mais quand même, les éleveurs...
C'est surréaliste, en pleine période de grippe aviaire, où on demande à tous les éleveurs de rester cloîtrés, de ne pas sortir leurs animaux, de ne pas échanger et tout, alors qu'ils pourraient en avoir besoin. Et puis on autorise les chasseurs à sortir des canards d'élevage pour les mettre dans le milieu naturel sans aucun contrôle. Moi je vous dis que j'ai jamais vu un ministre qui avait montré une telle déconsidération à l'égard de la faune sauvage et une telle prétention à vouloir la préserver. Voilà.
Merci beaucoup, cher Alain Bougrain-Dubourg. Et puis, évidemment, on vous retrouve, ce sera demain matin, autour de 7h45, avec Baraton et Patricia Martin, sur France Inter. Voilà, donc c'était la petite actualité. Et tenez, on va commencer par un son tout à fait intéressant, puisque donc c'était cette semaine, c'était le fameux débat entre donc Hamon et Valls. Youpi ! Donc, nous allons avoir ce merveilleux son, puisque nous allons, avec Frédéric Denré, donc pouvoir détailler cela.
Benoît Hamon, vous dites que vous présentez et que vous avez le souci du bien-être des générations à venir. Vous avez même mentionné vos deux filles, je crois. Mais dans votre programme, il n'y a rien pour réduire les dépenses. Et donc les dettes, si vous faites cela, ce sont ces générations-là qui vont payer.
Mais monsieur Boulot, je ne sais pas si vous êtes père de famille vous-même. Avez-vous vu, que ce soit à Annecy, à Paris, dans le sud de la France, dans quel environnement faisons-nous grandir nos enfants? Quel monde allons-nous leur laisser? Aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens que moi je veux interdire, qui se trouvent dans des pesticides, qui se trouvent dans des aliments, aujourd'hui provoquent des pubertés précoces, des cancers nombreux, et nous ne faisons rien. On négocie avec les banquiers, pas avec la nature. Non mais des journalistes qui disent, est-ce que Benoît Hamon c'est menacer les générations futures que d'alourdir la dette. La dette, c'est aujourd'hui la dette environnementale.
Manuel Valls, alors vous avez critiqué Benoît Hamon là-dessus, mais quand on lit votre programme, il y a aussi pas mal de dépenses en plus.
Je partage l'idée, c'est ce que je propose, en matière de santé, parce que là nous parlons de la déficit ou des dettes ou des dépenses publiques, celles de l'État, mais il y a évidemment celle de la sécurité sociale, qu'une vraie politique de réduction ou de maîtrise de la dépense sociale passe par la prévention. On fait, pour le dire autrement, beaucoup trop de curatifs aujourd'hui, pas assez de prévention. Je pense que nous pouvons être capables d'assumer devant les Français de nouvelles dépenses. Autour de 15 à 16 milliards supplémentaires, nous devons cette vérité aux Français. Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles dépenses en matière de sécurité, en matière de justice et en matière de défense.
Alors nous avions regardé le programme Fillon et Juppé à l'époque, on regarde là cette fois-ci le programme Hamon et Valls. Alors c'est intéressant parce que ce son en fait il arrive en fait à propos de la dette, hein, Frédéric Denré.
Oui, bah l'entrée pour nos confrères journalistes politiques c'est toujours l'entrée économique et c'est par l'économique qu'on en arrive à l'écologique et c'est d'ailleurs un des moteurs de la vision écologique de Manuel Valls, c'est santé environnement. Alors c'est une vraie rupture par rapport à avant.
Santé environnement.
Ça, ouais. On parle enfin à l'échelle des présidentielles du lien entre santé et environnement. Mmh. Pourquoi? Parce que la santé, l'environnement dégradé entraîne des dépenses de santé considérables si on ne s'en tient qu'à ça.
15 ans ou 20 ans qu'on le fait dans cette émission. C'est pas grave.
Non, mais tout arrive.
Mais oui. Denis. Faut être opiniâtre et patient.
C'est ça. Puis être d'un naturel optimiste, ce qu'on est.
Ouais.
Et chez Benoît Hamon, là, par contre, il y a une vraie différence. Hein, chez Benoît Hamon, c'est un programme écologiste. Tout simplement, vous prenez un programme.
C'est-à-dire qu'il y a un lien total entre le social, l'environnemental, avec une critique de la croissance.
Ah ben, c'est un programme de rupture avec l'idéologie social-démocrate portée par Manuel Valls. Il y a une vraie différence entre les deux sur l'importance de l'écologie. Elle est vraiment consubstantielle chez Hamon. Elle existe chez Valls, mais chez Valls, l'entrée, c'est la santé.
On regarde le nucléaire.
Alors sur le nucléaire, tous les deux de fait ont acté que fallait passer à autre chose. Chez Valls, c'est moins frappant. Chez Valls, on maintient le nucléaire tant qu'on peut. Chez Hamon, on ferme les centrales en fin de vie et les centrales réputées dangereuses. Donc on va plus vite, plus loin vers la transition énergétique, vers la part augmentée des énergies renouvelables.
Alors transition énergétique, on a quand même un petit peu regardé l'affaire. C'est pas si évident que ça, parce qu'on est encore un peu dans du flou, dans des choses qui sont pas totalement chiffrées.
Ah, c'est pas chiffré, c'est même, il y a vraiment un énorme flou. Hein. À Mons, le socle de son programme énergétique, c'est objectif de 50% d'énergie renouvelable dès 2025. Mais il ne dit pas de quelle énergie il parle. Il ne dit pas si c'est 50...
consommation ou production.
Que ce soit consommation ou production, compte tenu des objectifs déjà actés, ça paraît pour le moins assez hasardeux, voire irréaliste. Donc ça mériterait d'être clarifié. J'espère que ça le sera dimanche.
Pour Valls.
Pour Valls, il n'y a pas grand-chose. Je suis au regret de vous le dire. Si ce n'est, voilà, on encourage les énergies renouvelables, très bien, mais ça ne va pas plus loin dans le chiffrage de baisse de la consommation de production. En tout cas, tous les deux ont acté le fait que le tout nucléaire c'était fini.
L'entrée de
Manuel Valls, elle est toujours la même. C'est santé environnement sous une terminologie qui est assez particulière. Le double respect des travailleurs du secteur agricole et des consommateurs. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais respect qui passe par...
Bon, on peut comprendre si ça...
C'est pas mal. Et puis, une aide aux agriculteurs pour essayer d'être un peu plus costaud face à la grande distribution, mais en tout cas, c'est santé environnementale, alors que chez Hamon, on va beaucoup plus loin parce que on pousse à privilégier dans le foncier agricole, dans l'attribution du foncier agricole lors de la reprise d'une ferme, on priorise les projets bio et agroécologiques.
Là, c'est une révolution quand même.
Priorité
de l'attribution du foncier donc pour les projets bio et agroécologiques.
Ouais. Voilà. Et puis chez Manuel Valls, on pousse au circuit court, on pousse aux cultures maraîchères autour des villes et on pousse au circuit court notamment via la création d'une agence régionale, je vais vous retrouver son nom, pour un développement non pas durable, non pas pérenne, mais tempérant, c'est un nouveau terme.
Tempérant,
c'est pas mal.
Oui, c'est joli.
C'est assez joli. Donc, bon. Qui aurait pour but de favoriser les circuits courts, de mobiliser le numérique pour relier producteurs et consommateurs, les initiatives responsables, etc.
Bon, ça se fait déjà, le numérique, hein, relier consommateurs et
producteurs. Ça se fait déjà, voilà. Une agence de plus pour favoriser, en tout cas, les circuits courts et le maraîchage autour des villes.
Alors, le territorial, quand même, un peu pour les deux, ça fonctionne assez bien. Quoi. On sait que c'est à ce niveau-là que les choses peuvent se résoudre, bien sûr.
Alors, territorial, Valls s'en parle. C'est lui qui pousse le plus loin. Il veut aller vers un pouvoir réglementaire conféré aux régions, voire un partenariat entre l'État qui serait dévolu aux régaliens et à l'égalité sur le territoire. Donc, un partenariat entre l'État et les collectivités territoriales. C'est lui qui tire le fil le plus loin. Chez Hamon, on ne parle pas vraiment du territorial, mais on parle d'une décentralisation poussée. Hein, Valls aimerait que EDF soit le vecteur, le pilier de la transition énergétique, que EDF finance, aide à la production et au stockage d'énergie renouvelable, c'est-à-dire pousse à la décentralisation de la production d'énergie verte, donc pousse vers l'autoconsommation. Pardon.
Ça veut dire un petit changement de culture.
C'est un changement de culture, mais l'écologie, c'est jamais que de la politique.
C'est que ça, oui, absolument. Et quand même, sur un côté européen, qu'est-ce que l'on peut dire sur les produits, entre autres, qui sont importés?
Alors, pour Valls, il faut les taxer. En fonction de leur irrespect des normes sociales et environnementales européennes. Chez Hamon, il va plus loin, lui, il propose carrément, alors pas à l'échelle européenne, mais à l'échelle française, on ne voit pas comment il pourra le faire, d'interdire l'importation des denrées alimentaires utilisant une substance interdite en France. C'est complètement irréalisable dans le cas européen d'aujourd'hui.
Et puis surtout, protectionnisme.
Voilà, on l'accuserait de protectionnisme, et puis le coût économique n'est pas chiffré. Et puis surtout, il propose de suspendre immédiatement, dès son élection, l'application de l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, sauf que dans les textes, c'est rigoureusement impossible.
Ah oui, parce que la France n'a pas signé contre.
La France n'a pas signé contre, puis surtout, elle n'a pas fait comme l'Allemagne, qui avait demandé de pouvoir éventuellement sortir du CETA dans la phase d'application. Donc la France ne peut pas sortir du CETA.
Bon, écoutez, ça mérite une petite chanson, ça vous... Hein,
Une belle chanson.
Allons-y.
CO2, mon amour, sur France Inter.
On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir. On vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté. Endetté, en détresse. à genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. À Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittaliser à Florange, l'or et l'acier. On vous laisse cet étrange capitaliser sur la précarité. On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie. Chez Lidl, le pack de bière a des pulsions suicidaires. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse nos frontières se refermer, hommes à la mer émigrés, cap sur l'Angleterre, depuis la Guinée, t'as le temps d'apprendre à nager. On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée, enfant de la guerre. Cherche un bout de terre pour apprendre à marcher. De quoi vous distraire pour quelques années. De quoi vous distraire et vous en aller. De quoi vous distraire et vous en allez. De quoi vous distraire et vous en allez.
Mokayesh et Lavillier, c'était la loi du marché sur France Inter. 01 56 40 40 35, c'est le numéro du répondeur. On avait encore des vœux, oui, on peut les faire, on est le 28.
Ben, mon message, c'est faire en sorte que en 2017, il y ait un combat contre une horreur faite par l'humanité, par une partie de l'humanité, en Asie. Cette horreur, ce sont les bars à ours dans nombreux pays d'Asie. Il existe des bars dans lesquels des ours, enfin un ours est enfermé. On relie cet ours par un tuyau qui rentre dans sa rate. Et on récupère sa bile que l'on mélange à de la bière pour des consommateurs qui, buvant cette boisson, s'imaginent prendre plus de force, force physique, force sexuelle. Merci beaucoup et bonne année à tous.
Bonjour Denis et merci pour la qualité de vos émissions. Je suis Clarisse Onic. Donc dans mes vœux pour 2017, j'aurais aimé qu'on interdise la vénerie shooter, qui est vraiment une pratique cruelle et inutile. Aussi qu'on limite l'expérimentation animale. parce que là aussi, il y a des méthodes alternatives qui ne sont pas assez développées. Merci beaucoup, Denis. En tout cas, continuez et bonne année à l'émission CO2 Mon Amour. Au revoir.
Et à vous tous. Je crois qu'il faut des couches, si vous voulez, de bons voeux pour que les choses puissent, comme ça, percoler chez les uns les autres. Le ch'ti que vous êtes, vous prenez de la bière sans
barre. Ah non, moi, je prends pas de, il n'y a pas d'ours, pas sans pêche, si vous inquiétez pas.
Je connaissais pas cette saloperie, mais c'est quand même, c'est bien gratinant, c'est renseigné.
C'est pas ça, c'est le pénis de tigre, voilà.
Voilà. Donc c'est ça. Alors sinon, si vous voulez avoir des nouvelles des ours tout à fait joyeuses, là, vous avez le numéro de Terre Sauvage, encore de ce mois de janvier, qui concerne donc les ours sous toutes leurs formes, sur toutes les latitudes, qui est très très bien fait. 01 56 40 40 35.
Bonjour Denis, Grégoire de Lille. En fait, ce ne sont pas des vœux que j'aimerais souhaiter, plutôt lancer des invitations aux auditeurs de CO2 Mon Amour. Et si on passait à l'action en 2017, en transformant notre consommation pour des produits locaux, bio, de saison, en changeant de banque pour que notre argent vienne alimenter les projets de l'économie sociale et solidaire pour faire émerger le monde de demain que nous voulons, en nous investissant dans des projets locaux d'agriculture urbaine, par exemple, dans des projets de café solidaire, des lieux de culture alternative, des ressourceries, en nous déplaçant au maximum avec des modes de transport doux, bons pour la planète et notre santé, en nous abonnant à des fournisseurs d'électricité vraiment responsables. Si on s'y met tous, 2007 sera une très belle année, et en début janvier, j'ai vraiment envie d'y croire. Alors, on s'y met tous?
Eh ben voilà, on s'y met tous, et chacun en fonction de son périmètre, hein, une fois de plus. Alors, pas de côté punitif, ça sert absolument à rien, pas de moralisation du tout, mais chacun peut arbitrer à sa manière, donc ça c'est chacun qui regarde cette affaire-là. Je vais vous emmener rencontrer une femme qui, elle, avance, fait les choses, et vous allez voir, elle va nous faire beaucoup de bien, elle s'appelle Marie Morage.
La balade de Denis Chessoux.
Et ben voilà, nous sommes au cœur du troupeau.
Nous sommes au cœur du troupeau, au cœur des quartiers.
Au cœur des quartiers. Et alors là, Marie, donc vous avez un client qui vient d'où ?
C'est un fromager d'Aix-en-Provence, en fait, qui vient parce que j'ai un circuit de distribution qui est beaucoup sur des revendeurs, des biocoops, etc. Et puis, puis aussi ici, la vente à la ferme dans les quartiers. Donc les gens des quartiers mangent les mêmes fromages que ceux des restaurants chics du centre-ville. C'est effectivement une ferme qui produit. Moi, c'était vraiment quelque chose qui était important, c'est-à-dire d'embaucher des gens. D'embaucher, de montrer que quand on a une activité agricole sur laquelle on ne se fait pas mettre les mains dans le dos et le pistolet sur la tête, on arrive à embaucher. Et puis après, donc ce travail de pédagogique autour de l'alimentation, pour moi, il était évident, quoi. On est dans une période où les collectivités, Marseille en fait partie, sont en train de construire des plans alimentation territorialisés. Donc reconsommer local, c'est bien, et consommer bio, c'est mieux.
Marie Morage est une femme qui vient du Nord, qui après est passée dans les Hautes-Alpes. Là, ça s'est pas forcément bien passé parce que ça marchait bien et puis on a carrément mis le feu à sa ferme. Donc elle s'est dit, oh là là, je pars. Bon, et Marie Morage est éleveuse de chèvres, de brebis sur une douzaine d'hectares dans un coin de Marseille qui est quand même plus connu pour sa misère et ses trafics. Et alors là, faut imaginer un cheval de trait, un troupeau de moutons au loin. Plus proche, donc vous avez des chèvres, et donc tout ce petit monde voit la vie en bio sous l'œil d'une partie des tours de ces fameux quartiers nord. Et aujourd'hui, bah, c'est devenu en fait un lieu de production, donc ça fonctionne, un lieu environnemental, et aussi de transmission pour les jeunes du quartier. Cette ferme fait partie des trois fermes pédagogiques qui furent créées, il y a déjà pas mal de temps, par Gaston Defer, donc ça remonte, oulala, oui. Et elle a tout remis en état de marche, voilà, et c'est donc le mariage de l'environnemental, du social, de l'économie, car il s'agit bien d'une petite entreprise que je vous propose aujourd'hui, balade chez elle, et voyons le travail aussi donc de Marie Morage.
Ici, en fait, selon la manière dont on s'oriente, on voit soit les tours des quartiers,
14e arrondissement de Marseille.
14e arrondissement de Marseille, ce qu'on appelle les quartiers nord. Hein, ouais, et donc ensuite, petit à petit, on se tourne et là, on voit, en fait, c'est la Bastide Montgolfier. Donc c'est l'ancienne maison de maître. Ouais. Et ensuite, après, quand on se tourne de l'autre côté, on a le village de Sainte-Marthe. Parce que Marseille, c'est des quartiers qui sont des villages, bien en sûr. Fait. Tu vois le village, tu vois l'ancien village, les quartiers tels qu'ils étaient avant. C'est-à-dire que les quartiers nord, c'était pas ces quartiers où on a mis des tours, parce que les tours ont été mises sur des terres agricoles, c'est évident. Mais c'était des quartiers où les gens venaient chercher le lait à la ferme, où ce sont des terres riches, très riches. Donc voilà. Et donc cette ferme, c'est une ferme qui appartient à la ville de Marseille, qui a été rachetée dans les années 80 et qui est devenue une ferme pédagogique.
Alors la gamine du Nord, c'était quoi son histoire ?
D'abord se nourrir, soit. Donc j'ai commencé à faire mes premières armes comme ça, en nourrissant le tout début de ma petite famille. Et puis après, je dis, je vais m'installer en agriculture. De fait, c'était en bio parce que...
De fait, c'était en bio. Pourquoi ça a été bio immédiatement ?
C'était pas uniquement une façon de produire, parce que pour moi ça s'arrête pas à un cahier des charges, mais il y a tout ce côté environnement, humain, c'est un peu la place dans le monde, c'est-à-dire quel choix de modèle agricole, mais c'est aussi quel choix de société. Donc pour moi c'était évident, ça allait avec l'éducation que je donnais à mes enfants, c'est... cultiver le verbe être plutôt que le verbe avoir, c'est trouver sa place, c'est bien se nourrir, être bien avec les autres.
Le pari était quand même assez incroyable, hein, parce que d'arriver ici avec des vraies convictions d'une femme qui aime le bio depuis donc très longtemps, qui est engagée, donc qui vient à la fois du Nord et puis après donc des Hautes-Alpes, qui a lâché tout cela. Et alors, quel a été le choc quand vous êtes arrivé ici, parce que c'est une bonne terre là.
Je sais pas si c'est un choc, mais en tout cas ça a été plus un coup de foudre et presque une histoire d'amour, parce que je quittais un endroit qui était très beau mais humainement très difficile. Et donc je me suis retrouvée ici dans un endroit bien sûr moins difficile au niveau des conditions climatiques, et donc les animaux sont tout le temps dehors, hein, et on peut les sortir toute l'année. Et puis par contre le grand écart au niveau humain, c'est-à-dire des gens qui étaient extrêmement contents de me voir arriver ici, de voir revivre la ferme, de voir à nouveau les animaux, d'entendre à nouveau le bruit des machines et de tout ça, parce que c'est une espèce de petit trésor qui est un peu caché dans les quartiers.
Et qui se l'approprie.
Et les gens se l'approprient, ils y viennent, et puis ils sont... J'ai le souvenir, tout au début, avant d'avoir déjà les animaux, mais tout au début que j'étais là, des femmes du quartier qui m'ont prise dans leurs bras, qui m'ont embrassée, qui m'ont dit « Ah, qu'est-ce qu'on est content, on avait peur que ça ouvre plus ». Autant j'ai eu du mal à faire ma place dans les Hautes-Alpes, autant ici, je pense que j'ai trouvé ma place et que je suis vraiment très très bien acceptée. Voilà, on est bien ensemble, et je pense que ça, c'est une bonne chose. Allez les filles.
Allez. Bon, je rentre dans l'enclos des filles. Elles sont pas farouches. Non mais pas toutes en même temps là. Ça c'est le problème des chèvres et des moutons. Hein. C'est que vous avez une sortie qui fait 1m20, elles se mettent à 5 devant, tellement ça coince. Mais oui, toi aussi tu feras la Star Academy, t'inquiète pas. Là. C'est ce qu'il faut. Alors nous avons ces bêtes qui sont bio, ça veut dire qu'elles ne connaissent pas les antibiotiques, ça veut dire qu'elles ne connaissent pas les hormones, ça veut dire que l'herbe aussi,
Moi j'ai toujours été assez convaincue sur ça, quoi, que l'alimentation c'était la base de la santé. Enfin j'ai zéro frais vétérinaire sur le troupeau, quoi, parce que...
Ah oui,
zéro. Hein.
Ah d'accord. Marie, toute cette bonne herbe, tout ce foin, d'où vient-il ?
Donc c'est une très très bonne terre, mais qui était un peu mal entretenue, et il fallait un peu tout remettre en état. Donc c'est ce qu'on fait par partie. Et donc là j'ai fait rentrer du foin.
C'est du sacré foin, hein, c'est de la qualité ça, le foin de l'Acro.
C'est du foin de
Croix en bio. Sur le
Cossoul et le reste. Du foin de Croix en bio. Et puis après, sinon je donne de la drèche de brasserie, parce que tu sais, il y a de plus en plus de brasseries artisanales qui s'installent un peu partout en ville. Et donc,
il y en a 12 par jour qui fleurissent en France. Hein. Ça doit être c'est dément, là.
Ah bah alors, tu sais, on va pouvoir nourrir les élevages avec ça, parce que moi, les chèvres, elles adorent. Du coup, je récupère l'orge une fois qu'il a été fermenté.
Ouais.
Et donc, et après, je le donne aux animaux. C'est extrêmement riche. Donc, moi, je trouve ça super. Il peut s'en installer. On va nourrir les animaux avec ça.
Et
donc, il y en a qui boiront la bière et moi, je ferai le fromage.
C'est ça, oui. Non, mais les deux ne se mélangent pas dans la bête. Donc,
les deux ne se mélangent pas.
Alors là, je vais me baisser, petite pause, parce que quand même, Cali, votre border, ben oui, ça fait 3 fois qu'il rapporte la branche pour qu'on lui envoie. Et voilà.
Mais ce ne sera pas que 3.
Oui, c'est ça. Ça peut durer 2 heures et quart.
Et elle est très performante parce qu'elle te la ramène dans la main.
C'est ce que j'ai eu. Mais sinon, elle sert à quelque chose quand même par rapport au
bête. Oui, ça chie un troupeau.
Quand je suis un troupeau. On va laisser Cali rapporter son bâton, voilà, sur France Inter, CO2 de mon amour, et on poursuit le voyage à Marseille avec Marie Morage.
D'abord avancer les girafes, et puis les vaches et les chevaux, les crocodiles et les corbeaux, les souris, les hippopotames et les chimpanzés, rangez-les-moi bien. De Noé. Les hommes nous ont gonflé la tête avec les guerres et la misère et la bêtise. Alors on a décidé le déluge, mais les animaux n'y étaient pour rien. C'est pour ça qu'on a fait l'arche de Noé. Alors en
c'est pas la même marche que celle de Nino Ferrer sur France Inter. Là, nous sommes donc, je vous le rappelle, dans ce quartier nord de Marseille. 12 hectares, Marie Morage, les tours de ce quartier. Et puis alors là, vous avez donc... Alors, ce ne sont pas des chèvres du Rove. Je dis ça parce que si vous êtes du coin, vous connaissez le Rove, cette montagne du Rove qui est belle. Et là, bah, vous avez des chèvres qui sont voisines, mais elles ont des cornes assez évasées. Alors, ça pouvait être un peu dangereux. Non, on a des anglo-nubiennes. Et alors, on est bien sûr toujours dans ce circuit court avec Marie Morage. Et avec des jeunes qui font des stages, du bénévolat, des stages agricoles. Et ils peuvent même carrément venir en bus. Ah oui, c'est comme ça. Donc, c'est à la ferme de la Tour des Pins.
Il y a un groupe d'enfants qui est en animation. Et donc, ils vont sortir les chèvres avec Anouk, qui est mon animatrice. C'est elle qui s'occupe de toute la partie pédagogie. Voilà. Là, ils sont en train de mettre une lapine à la reproduction. Après, ils vont sortir les chèvres. Ensuite, ils vont aller chercher les brebis un peu plus loin. Enfin, voilà.
Ah, Anouk, alors là, maintenant, c'est un peu votre domaine. Vous venez d'où, vous, Anouk ?
Je viens du pied de la Sainte-Victoire. J'ai vécu pendant 10 ans à Marseille et suite à mes expériences en tant qu'éducatrice spécialisée, j'ai toujours travaillé autour de l'alimentation et donc j'avais vraiment envie de revenir au cœur de l'alimentation, c'est-à-dire de l'agriculture, de travailler avec le public, notamment les enfants, les jeunes publics.
Pourquoi ça vous paraît important justement ça ?
Bon, moi, je viens quand même de la campagne et adolescente au cours de mes études, on a toujours stigmatisé l'agriculture comme quelque chose d'assez banal. Voilà, on a mis de côté un peu tout ce qui était réflexion autour de la terre. Et donc, je pense que c'est vraiment important de reconnecter la population avec ce qu'elle mange et avec l'environnement qui l'entoure.
Ah, là, on arrive vers un autre jeune.
Il cherche à manger.
Il cherche à manger. Qu'est-ce que tu as entre les mains ? Toi, tu as la brosse.
Ça, c'est même pas ce que c'est.
Ah, ça doit être pour les pieds des bêtes, ça, à mon avis. Qu'est-ce qui te plaît, toi, ici, dans cette ferme ?
Ben, on aime les animaux. On aime nourrir les animaux. Ah ben là, il y a Paco et Mehdi qui arrivent pour s'occuper des clôtures de l'autre côté. Voilà. Alors, Paco, il est en stage. C'est un petit peu compliqué, la vie de Paco. Il a 14 ans et il ne veut plus aller à l'école.
Bah oui, mais enfin Paco, s'il ne veut plus aller à l'école mais qu'il est ici, il est heureux ici.
Ah, c'est bien, ça change du quartier.
Ouais.
On voit des bâtiments, on voit des animaux là, c'est bien.
Il vient tous les jours, tous les soirs, le dimanche, etc. Mais là, il est officiellement en stage. Puis d'ici quelques temps, quand il aura pris une école, on fait une école agricole, et ben je vais le prendre comme apprenti.
Et le travail de la ferme, tu ne le connaissais pas ?
Non, le travail de la ferme, non. Ouais, ça me plaît. Ouais.
Moi, je remarque que les animaux, c'est très apaisant. Le contact avec les animaux, ça calme les gens parce que c'est obligé d'être un peu plus posé. Moi, je dis Paco, c'est un ange. Et en fait, il paraît qu'il y a deux Paco. Donc, il y a celui qui est en cours et puis qui supporte pas l'école telle qu'elle est. Mais Paco, quand il est ici, je pense qu'il est bien. Paco est pas du quartier, mais en tout cas avec Mehdi, après chez Amadou aussi qui est en apprentissage, qui est un jeune malien. Et moi, je suis ravie. Quand je les entends discuter, tous les deux, Mehdi et Amadou, le matin à la traite, et ils disent « Oh, c'est quand qu'on aura une ferme, tout ça !» Et ben, ils sont déjà en train de monter leur projet. Je leur demande certaines choses, ils le font. Oui. Et je pense qu'ils s'y sentent bien parce qu'il y a un sens à ce qu'ils font.
Bon, alors là, nous avons un concert.
Un groupe de pintades qui nous font concert. un concert.
Oui, c'est bien.
Je pense que je vais leur demander d'aller faire le même concert au Théâtre du Merlin, qui est juste à côté, qui est une scène nationale. On va les emmener là-bas.
Ah bah oui, je crois qu'elles ont pris de leur place.
Bon, alors c'est compliqué avec Amadou parce que il est apprenti malien et donc là on est dans le renouvellement de ses papiers. C'est vraiment très compliqué pour lui. Mais voilà, on est en train de se bagarrer un peu pour qu'il puisse finir son apprentissage parce que c'est quelqu'un qui a envie un jour de repartir chez lui parce que chez lui son père a des vaches. C'est vraiment un bonheur de travailler avec lui, c'est une belle rencontre.
C'est bien.
Et alors quand il traite les chèvres, qu'est-ce que tu leur dis ?
Bonne journée. Bon appétit.
Bonne journée, bon appétit. Ben voilà. Alors vous dites quand même, Marie, que l'alimentation, c'est le lieu où se construit l'individu.
Je pense que socialement, l'alimentation, c'est très marqué. Les gens, on le voit bien, les gens qui ont les moyens mangent des produits régionaux, sont très terroirs, bio, etc. Et donc pour moi c'était aussi ça cet enjeu, c'était d'amener un peu un autre regard sur l'alimentation, à des gens qui ne la connaissent pas. C'est aussi l'occasion, quand on allait mise bas, de parler de l'allaitement, de l'intérêt d'allaiter ses enfants, etc., de ce relationnel de la mère et de l'enfant. Mais moi, je me pose toujours la question de comment on peut construire son univers gustatif et son univers affectif en général en poussant un chariot et en ayant des produits qui mentent. C'est-à-dire que, quelque part, quand tu achètes un produit transformé, un emballage, c'est beau, ça te fait saliver. Et quand tu l'ouvres, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que t'as pas ce même plaisir que ça te procure intellectuellement. Donc les gamins, ils construisent tout leur univers sur du mensonge.
Bon, chère Marie, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter?
Moi, ce que je veux, c'est qu'effectivement, y a des beaux projets qui se montent ici. On est en train de travailler avec le Théâtre du Merlan pour faire de l'agriculture, c'est-à-dire de mélanger toutes les phases de culture, qu'elles soient celles de la terre ou celles de l'esprit. Voilà, qu'il y ait des gens qui viennent ici, qu'on puisse y faire des beaux ateliers, parce qu'on va démarrer dans le printemps un petit jardin qui sera un jardin multiculturel. Donc ça, c'était un peu mon souhait. C'est un peu plus un endroit de rencontre que pour y faire vraiment de l'agriculture, parce qu'à Marseille, il y a beaucoup de jardins partagés, énormément. Avec des fois des listes d'attentes monstrueuses de 30 ans sur certains. Et donc de faire un jardin où les gens se rencontrent, où on cultive, où on voit un peu les différentes façons de cultiver. Puis il y a quand même des communautés différentes, et entre autres la communauté comorienne, qui est quand même la plus grosse communauté de Marseille. On pense toujours que c'est la communauté algérienne, mais c'est les Comoriens qui sont en plus grand nombre. Donc des Comoriens, des Algériens, des Kurdes aussi. Moi, j'ai des Kurdes qui viennent et avec lesquels on a des échanges. Donc faire des échanges comme ça, culturels et de pratiques de l'agriculture et du jardinage. Et puis à la fin, effectivement, il y a le cuisinier de l'Intercontinental, donc qui est un peu quand même le grand restaurant de Marseille, hein, celui qui est à l'Hôtel Dieu, qui m'a promis qu'il viendrait cuisiner les produits qu'on a, qu'on ferait un grand banquet populaire à ce moment-là.
Allez, un dernier petit jet de bâton pour Cali, hein, pour la route, et hop là!
C'est pas compliqué les quartiers, je pense qu'on se fait une image de cet endroit comme étant quelque chose. C'est pas Chicago, c'est effectivement il y a des règlements de compte, effectivement. Mais moi j'ai pas de problème ici, il n'y a pas d'incursion, il n'y a personne qui vient me saccager, il n'y a personne qui, et je pense qu'il y a un vrai respect aussi, parce qu'ici c'est un endroit préservé. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est apprécié. Tu sais, si tu mets une poubelle, t'attires les poubelles. Et si tu mets un endroit qui est un peu beau, tu donnes quand même envie aux gens de respecter cet endroit.
Cette femme nous fait du bien. Marie Morage, donc à la ferme de la Tour des Pins, qui effectivement est tout à fait respectée. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là et elle donne du sens. Voilà. Et donc elle nous en donne aussi. Et ça fait du bien. Voilà. Elle a pris un lieu, elle se bagarre et donc elle avance. C'est donc Marie Morage. Vous pouvez donc la rencontrer dans ce 14e arrondissement de Marseille.
Je suis un Français moyen. J'ai 40 ans. Je n'aime que la cuisine au beurre.
CO2, mon amour.
Je mange du pain d'épices. Quand je fais cuire des nouilles à la semoule de blé dur, je les goûte. Je les goûte souvent. Je bois de la chicorée. Je bois du jus de raisin. Je bois du jus de pomme. Je mange du fromage en portions. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
Denis Chessou, sur France Inter.
Avant de retrouver Yannick Jolin, une petite surprise en improvisation, un autre message, 01 56 40 40 35.
Bonjour, CO2 mon amour, Gilles Merclin, l'appareil de Lyon. Donc le 17 janvier dernier, l'INSEE publiait les chiffres de la croissance française. Je veux parler bien sûr de la croissance démographique, plus 260 000 habitants en un an. Mais pour Denis Chessou et pour Frédéric Denray, ça ne fait pas partie de l'actualité de l'environnement. Eh oui, il faut bien comprendre que le nombre que nous sommes et sa croissance n'ont rien, mais alors rien à voir avec l'artificialisation des sols, avec l'effondrement de la biodiversité, ni avec les niveaux de consommation et d'émissions de toutes sortes. Non, non, grâce à la néoécologie du développement durable, il apparaît que la croissance démographique est un non-facteur. Elle est écologiquement neutre. Eh oui. Ah, René Dumont, décidément, les héritiers ne sont plus ce qu'ils étaient. Au revoir quand même.
Merci à vous, Gilles Merclin, donc, pour ce message. Donc, on appartient à la néo-écologie. C'est formidable. Bon, on ne nie pas une seconde cette histoire de démographie. On en a parlé, je sais plus, 14 fois, 15 fois, 20 fois dans l'émission. Cher Frédéric, oui. Petite réaction quand même.
Oui, c'est effectivement il y a un problème. La démographie augmente. Cela dit, si la consommation d'énergie, les émissions de carbone, la consommation de ressources naturelles n'augmente pas au même rythme que la démographie, c'est toujours un rythme inférieur. J'ai regardé les statistiques il y a pas longtemps. Ce qu'on appelle, on va dire, l'intensité énergétique de la France a diminué de 16% depuis 2005. C'est-à-dire que pour faire le même produit, on a besoin de 16% d'énergie en moins. On consomme à peu près 10% d'énergie en moins depuis 2005, alors que la population augmentait. Et ça, cette transition démographico-énergétique, on la constate dans tous les pays émergents. Même en Chine, on est arrivé à un plateau. En France, le plateau est atteint en 2005. Depuis, tout baisse, alors que la démographie augmente. On constate la même chose en Chine, on commence à le constater en Inde, on le voit même aux États-Unis.
Oui, c'est le pays où il y a encore 5 enfants par femme, un peu voilà. L'Inde, et où, ainsi que la zone subsaharienne.
En fait, ça c'est une vieille idée, hein. C'est l'idée malthusienne qui consiste à dire que si la population augmente de 10%, la prédation sur les ressources naturelles augmente de 10%. Or, c'est pas vrai, c'est plus vrai, ça fait depuis 1970 que l'on pense ça, ça n'a jamais été...
En revanche, le mode de consommation quand même...
Alors par contre, oui, le problème c'est pas la démographie, c'est ce que l'on consomme, c'est notre mode de vie. Et c'est bien ça qu'il faut changer beaucoup plus que la démographie.
Merci beaucoup, cher Frédéric.
Mais de rien, Denis.
Mais vous gênez pas, hein, 01 56 40 40 35, coup de cœur, coup de gueule, annonce de manifestation, ne vous gênez pas. Yannick Jolin, vous le connaissez, c'est un homme qui est conteur, qui est facétieux. Moi, j'aime beaucoup. Il faut aller voir un spectacle de Yannick Jolin, au moins une fois dans sa vie, il faut les voir plein. Et je l'ai rencontré, là, c'était à Rennes, on a un peu improvisé ça. Lui aussi, je lui ai demandé quels étaient ses vœux. Bonjour, Yannick Jolin.
Bonjour Denis. Alors, il y a un truc qui me vient à l'idée, c'est que je ferai un rapprochement qui est peut-être pas évident entre Trump,
oui,
sur son île aux États-Unis.
C'est ça. Maintenant, c'est une île.
Ouais, c'est une île. Oui. Et parce qu'il s'est refermé, donc c'est une île. C'est, oui. Il a coupé les ponts.
Mais il a pas coupé le robinet du pétrole quand même. Hein, donc
il va même faire des gros tuyaux. Oui. Là, il aime ça les tuyaux lui. Voilà. Hein. Et donc on dirait ça à l'île de Léron.
Ah oui. Ah, oui,
c'est intéressant, on voit pas au départ.
On voit pas entre la Charente-Maritime.
Et surtout avec le théâtre d'Ardoise, parce que, à mon avis, mais Trump va laisser pas mal d'ardoise pour les générations qui viennent.
Oui.
En très peu de temps, il a réussi à signer suffisamment de choses pour arriver à gâcher les biens communs, parce que la tragédie des biens communs, c'est quand même la chose qui peut préoccuper le plus l'humanité, parce que nous, dans un certain nombre de pays, quand même, ce qui fait une différence fondamentale, c'est cette attention que nous pouvons avoir aux biens communs. Et dans cette Amérique-là, je pense que les biens communs ont de grands, grands soucis à se faire, même si c'est dans un pays où les ressources sont en apparence tellement illimitées.
On va arriver tranquillement sur l'île de Léron.
C'est ça.
Et alors là, on voit un théâtre. On voit un théâtre qu'on appelle le théâtre d'Ardoise, qui est un homme qui s'appelle Monsieur Chaiolo, qui est à l'origine, qui est un ostréiculteur et qui aime la culture.
Et qui a fabriqué ce théâtre avec une montagne, il a déplacé comme ça de la boue du marais, puisqu'il est ostréiculteur lui-même, donc sur ses terres à lui, il a pris cette terre pour en faire un théâtre gradiné de 500 places avec des pieux.
Un petit amphithéâtre qui est très joli.
Absolument magnifique. Donc il a fait ça sur un endroit qui est son endroit, mais en même temps il a voulu en faire un bien commun. Il a voulu faire quelque chose de plus pour la communauté. Il a voulu faire un lieu culturel dans une île où la culture n'a pas forcément une place tellement importante. Mais dans une période où n'importe quelle maire fait sa crotte sous forme de lieu culturel absolument abscon où il se passera que des mariages et des fêtes à neuneux, lui, il arrive à faire une saison culturelle absolument magistrale au milieu des oiseaux, un espace naturel mais qui a été fabriqué totalement par l'homme sur l'île de Léron.
On lui met quelques jolis bâtons dans les roues.
Ben, sous prétexte justement de la protection des paysages. Mais sous prétexte de ça, on folkloriserait le pays et on empêcherait toute chose à la bordure. Parce que c'est vrai qu'il a un petit peu fait son théâtre un peu aux bordures, quoi. Pas toujours dans les normes. Et c'est vrai que notre administration centrale, à force de lisser le monde, n'a pas forcément envie de laisser apparaître des initiatives qui peuvent arriver à fabriquer un monde de demain qui pourrait améliorer nos biens communs plutôt qu'arriver à dissiper ce qui fait qu'on a envie de vivre ensemble.
Et en fait, il est un peu menacé de tractopelle, quoi, de bulldozer.
Ah ben, oh, c'est le moins qu'on puisse dire. oh là là, burquer ça, parce que tu sais, une fois que la préfecture s'en mêle, après, on est tout baisé.
Oui.
On est tout baisé. Il va te dire, Denis, on n'est pas que le Titanic va s'en mancher dans le rocher, mais là, on est parti pour.
D'accord.
Non, mais d'ailleurs, c'est le lien.
Je vois bien le lien. Oui, entre les ardoises d'un côté qu'on va laisser aux générations futures et puis donc ce théâtre d'ardoises.
Qui pourrait générer des générations futures capables de vivre ensemble et de fabriquer ensemble de nouveaux paysages.
Une petite couleur aussi pour terminer, donc de Yannick Jolin. Alors, je ne sais pas si c'est la fée de la Gâtine qui va nous l'adresser, mais une petite couleur comme ça de nature.
Écoute, il aimerait bien ça, oui. Collèche une petite fée sur sa bicyclette rouge, oui, avec sa robe bleue sidérale, et qui s'en irait comme ça, et en dressant derrière elle un espèce de sillon qui ferait qu'on aurait un ciel qui serait d'un bleu immaculé, avec une espèce de volée d'osia qui viendrait comme ça, juste nous encourager, nous emmener vers un plus de monde où on bufferait avec un... Parce que toi, là, aujourd'hui, on est en vigilance orange.
Oui.
Sur la ville où il vit, là, on veut dire qu'on a nos particules fines qui sont en train de me gâcher ma tarte fine, qui s'est en train de me préparer pour mon réchaudet de soie. Un ciel pur,
oui,
avec une buffet comme ça. Et il pense à mes hirondelles, qui sont juste de chez ma Apougne.
Oui. Tu vois ? Apougne hérisson.
Ouais, Apougne hérisson. Quand il les voit arriver, et surtout le balai de quand elles se préparent, toutes jeunes et forneillées, pour aller se faire leur espèce de garrochage, le millier de kilomètres, alors qu'en faisant quelques
juste
grammes...
Juste le garrochage, parce qu'on a besoin. Moi, j'adore, de toute façon, votre parlure, mais le garrochage, c'est...
Se lancer. C'est un mot qu'on trouve au Québec tout bien. Il faut bien prendre un souffle. Pour qu'on ait un souffle, il faut qu'on ait de l'air, il faut qu'on ait un air collectif commun, qui soit magnifique, qui sèche respirable, qui sèche buffable. Que souhaiter de mieux au monde que de faire un grand respire et qu'on sèche tous ensemble.
Merci beaucoup Yannick, à bientôt.
Oh oui, à bientôt Denis.
Des informations sur le site de CO2 Mon Amour, sinon YannickJolin.com, son dernier spectacle Comment vider la mer, comme vider la mer avec une cuillère. Donc vous regarderez les dates parce qu'il tourne régulièrement bien sûr en France. Merci pour ce petit bout de poésie, ce petit coup de gueule donc par rapport à ce théâtre d'ardoise. Merci à Camille Blanès, notre assistante, à Xavier Pessugia qui a réalisé et colorisé donc cette émission, à Albert Hook, à Frédéric Denré. Cher Frédéric, à très bientôt.
À très bientôt,
bien sûr. Muriel Pérez qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2. Semaine prochaine, on va parler des zones humides parce que ça va être la journée internationale des zones humides. Je reviendrai avec un petit reportage du côté de Brouage. Voilà. Rediffusion, c'est entre 5h et 6h du matin. Le podcast, vous en avez l'habitude. Vous n'aurez pas de la tulle du Mon Petit Loup demain parce que vous aurez Valls et Hamon. Voilà. Donc ils raconteront eux aussi des histoires, hein, mais ce ne sont pas exactement les mêmes. Et dans quelques instants, eh bien, ce sera la librairie francophone d'Emmanuel Carat. Le Twitter, bon, on a le temps aujourd'hui, formidable. En général, on déborde, mais là, on a le temps. C'est simplement chez Sou, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Et puis, pour les rediffusions, je vous l'ai dit, librairie francophone, c'est fait aussi. Oui, si, journée internationale des zones humides et encore d'autres éléments. 01 56 40 40 35, ça vous en avez l'habitude, donc, mais laissez vos messages sans aucun problème.